Et non, nous ne sommes toujours pas des théoristes divergence numérique numéro 13 de cette saison 8, la 93e émission de toute la depuis le début. Et oui, on approche la centaine. Déjà, meilleurs voeux à toutes et à tous pour 2011. Ceux et celles qui nous écoutent sur le 93.9 de Divergence FM et puis sur le 104.1, 103.3 de Radio Escapade. Également, meilleurs voeux à tous nos amis francophones de Belgique et du Québec, et puis aussi à ceux et celles qui nous écoutez sur le net divergence-fm.org ou radioescapade au pluriel.org. Voilà, donc espérons que cette année va être un peu moins liberticide que les autres, mais en tout cas c'est mal barré avec toutes les lois que nous pondent nos chers députés et qui passent comme ça pendant les fêtes de fin d'année. En tout cas, au menu de cette divergence numérique, vous l'aurez compris, Divergence numérique, c'est votre émission sur le libre, les logiciels libres. Donc pour commencer cette année, piqûre de rappel avec nos amis de l'April. L'April qui est pionnière du logiciel libre en France, l'April constituée de 5328 adhérents, dont 4879 individus, 449 entreprises, associations et organisations, et depuis 1996, un acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions dans l'espace francophone. Emmanuel Charpentier et Luc Fievier de l'Avril nous concoctent chaque semaine cette revue de presse. Je les remercie d'avance, évidemment. Donc nous aurons les différentes revues de presse. On terminera l'émission par l'agenda du libre. Et puis nos pauses musicales seront piochées dans l'excellent portail de musique libre. L'offre légale, la voilà, c'est Dogmazic. .net avec différents artistes, mais tout de suite, ce sont les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Une divergence numérique consacrée exclusivement à des nouvelles. Donc on commence tout de suite avec la revue de presse de l'April de la semaine 51 de l'année 2010.
Revue de presse de l'April, la semaine 51 de l'année 2010. Bonjour Manu.
Bonjour Luc.
Et bonjour à Divergence. Si on passe, on ne sait pas encore si ça va marcher demain. Aujourd'hui, revue de presse express, donc avec 6 sujets. Donc, premier point, l'Europe prône l'interopérabilité d'opérettes. Le petit Nicolas contre les pédonazis, une aventure fabuleuse. Donc demain, j'arrête. La guerre des géants par le petit bout de la lorgnette. La grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et pour commencer, un article de Télérama.fr de la nécessité des cybermanifestations pour défendre Wikileaks, un article de la rédaction.
Mais qui est en fait une traduction d'un texte de Richard Stallman qui reprend ce dont on a déjà parlé, Wikileaks et les manifestations online.
Voilà, donc c'est... Alors il y a un petit article qui introduit tout ça, fait le point sur la situation. Donc un texte qui a été publié par Richard Stallman, le père du logiciel libre, dans The Guardian, un journal britannique. Où il explique que les actions qui ont été menées contre des sites comme Amazon, PayPal, Mastercard par des gens qui ont agi sous la bannière d'Anonymous, ça s'apparente à une cybermanifestation, c'est-à-dire d'aller occuper le terrain pour exprimer qu'on n'est pas d'accord, et non pas du piratage.
Et oui, rien à voir. Hein. On peut rentrer par milliers dans un magasin. Et rentrer dans un magasin, à ma connaissance, c'est pas du tout contre la loi. Mais effectivement, pour l'instant, les autorités ne savent pas comment réagir à ce qu'ils appellent un déni de service. Et j'ai cru entendre parler de quelques petits jeunes qui ont été ramenés au poste, on va dire, pour leur dire d'arrêter leur ordinateur pour aller sur des sites web de ces manières à outrance. Bon, c'est dommage, parce que c'est purement et simplement qu'une manifestation.
C'est ce que dit Richard Stallman. Il dit qu'ils n'ont pas, comment dire, cassé de système de sécurité. Ils sont contentés d'utiliser leur connexion et leurs moyens pour aller sur le site et aller manifester leur mécontentement. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait une manifestation. On empêche les gens de circuler. Et donc voilà. Donc, traduction sur Télérama, un point de vue assez intéressant et qui, en plus, ça souligne l'absence de droit aujourd'hui, de droit d'expression, de manifestation, etc. sur Internet, où on est vraiment dans un flou et on a beaucoup, beaucoup moins de droits que dans la réalité. Sujet suivant, donc la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Donc, évidemment, ça fait référence au chiffre 42.
Le chiffre 42 du guide de routard intergalactique, donc un article de Numérama. Des noms de domaines en .42 pour un web libre et ouvert de Guillaume Champeau. Alors des noms de domaines en .42, bien c'est pas plus compliqué que vous connaissez les noms de domaines de type numerama.com. Et bien là, il y a des petits rigolos, des petits amuseurs qui s'amusent à faire un nom de domaine quelque chose .42. Et il se trouve que ce nom de domaine là, et bien il se veut à l'écart des autres noms de domaine. Donc vous pourrez pas y accéder de base si vous tapez dans votre navigateur quelque chose qui se termine en .42. Il faut faire une manipulation technique, mais l'idée c'est d'être indépendant des autorités qui fournissent les noms de domaine. Je ne sais pas si tu les connais, Luc.
Alors c'est l'ICANN, c'est ça qui s'occupe de ce qu'on appelle les DNS, donc ce qui va faire le lien entre l'adresse IP qui est une série de chiffres et un nom qu'on peut comprendre. Donc derrière cette initiative, il y a des gens qu'on connaît bien. Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net, Tristan Nitto donc de Mozilla, Benjamin Bayard et Jean-Michel Planche, que je ne connaissais pas pour ma part, donc qui est aussi un pionnier du net. Donc qu'est-ce qu'on pourra voir dans ce TLD, comme on l'appelle, .42 ?
Bien, il y a toute une charte déontologique qu'il définit. Il faut notamment, qui exclut notamment les activités commerciales. Alors, ça nous fait un petit peu mal au cœur parce qu'il faut voir quelle est l'idée derrière tout cela.
Oui, parce que l'idée, c'est de faire du libre, mais du libre non commercial. Donc, est-ce que c'est encore libre ? On aimerait bien avoir des explications là-dessus.
Oui, mais en même temps, on va se méfier aussi, parce qu'on sait que les gens qui font ça sont des gens qui sont très pointus sur ces questions-là. Donc, on est un peu étonné. On va leur poser la question quand on aura l'occasion, mais sûrement une très bonne raison. Et puis, outre cela, en fait, on pourra avoir un nom de domaine sur .42, bien, il faut le demander et il faut suivre cette charte déontologique. Donc, ça va passer par un comité, des gens qui vont décider si oui ou non il s'agit de choses qui les intéressent. Donc, il ne faut pas de publicité, mais il faut aussi encourager le partage et le progrès d'une manière générale. Donc, c'est basé en grande partie sur du logiciel libre. C'est le fondement de tout cela. L'idée aussi, c'est que .42, c'est un nom de domaine qui est interdit d'habitude. On ne peut pas avoir des noms de domaine en chiffres, ce qui peut d'ailleurs poser d'autres problèmes dans d'autres navigateurs un peu pénibles comme IE. Mais ça permet de s'assurer d'être indépendant. Jamais l'ICANN, en tout cas dans sa structure actuelle, ne pourra fournir des noms de domaine en .42.
Voilà, alors, donc, la guerre des géants par le petit bout de la lorgnette. Donc, ça, c'est un article du Monde Informatique. Bilan open source 2010, un réalisme économique sur fond de tension par Jacques Cheminat. Donc moi, c'est un article qui m'a fait un petit peu mal, je ne saurais dire où, mais en tout cas qui m'a un petit peu fait grincer des dents, parce que le point de vue général, c'est-à-dire qu'en 2010, il y a eu énormément de mouvements, ça fait référence à la guerre des gens dont on parle toutes les semaines, depuis plusieurs semaines, avec Oracle, le rachat de Sun et tout ce genre de choses. Et donc, le point de vue de l'auteur de cet article, c'est de dire que ça a bougé, qu'aujourd'hui, la nécessité de faire de l'argent par les grosses entreprises fait que c'est en train de bouger et que les prix augmentent et qu'on arrête la rigolade et que maintenant, on est là pour faire du business pour de vrai.
Alors là, tu prends le point de vue des développeurs, c'est ce que dit l'auteur. L'orientation capitaliste de cette année ne fait pas que des heureux parmi les communautés de développeurs. La fondation Apache, c'est la référence qu'il prend, qui a quitté le Java Community Process en étant en conflit avec Oracle, l'un des gros de toute cette problématique. Donc, ce ne sera pas nouveau. Et effectivement, il faut avouer ce qui est. Bon, déjà, beaucoup, beaucoup de références à l'open source et pas au libre. Et donc, on voit clairement une orientation tout de suite. Les mots parlent. Et puis, le fait de mettre en avant les entreprises plus que les projets. Donc là, quelque part, il laisse entendre qu'effectivement, des entreprises, c'est sérieux. Et surtout, les grosses entreprises sont sérieuses. Alors que les projets, parfois les petits projets, eux, c'est un petit peu... c'est beaucoup moins stable, c'est beaucoup moins dans le temps. Donc ça fait un petit peu mal au cœur, il faut avouer, mais bon, il y a des choses intéressantes. Il met en avant le fait que les entreprises s'y mettent, justement.
Ah oui, mais enfin, le problème, c'est qu'il cite quand même pas mal d'exemples de ce qui s'est passé avec Oracle, et de notamment le fork LibreOffice ou la mort d'OpenSolaris. Et donc, dans ces deux cas-là, c'est quand même des forks, enfin, à la fois un fork et un projet qui s'est sabordé. justement parce qu'Oracle était en train de restreindre le libre et en train de refermer le code, et refermer les projets en tout cas, même s'il ne pouvait pas refermer tout le code. Et donc en gros, la démonstration qu'Oracle était en train de cesser de faire du libre. Et donc effectivement, quand on ne fait plus libre, il n'y a plus de libre. Mais c'est un petit peu tautologique comme, comme vision. Et donc là, je ne vois pas tellement le truc, si ce n'est que bah, justement cette vision capitaliste est en train de tuer le libre, et on montre qu'il y a des choses pas tout à fait compatibles. Parce que parallèlement à la démarche d'Oracle, il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres choses qui tournent pas mal, comme Android, qui reste libre avec plein de boîtes qui partagent ce truc-là, qui restent des entreprises capitalistes. Hein. Puis des entreprises du libre, il y a, ça fait quand même 15 ans que ça existe, et je pense pas qu'elles aient travaillé en bénévole avec la volonté de perdre de l'argent pendant 15 ans. Donc voilà, donc c'est un point de vue qui, moi, me plaît pas trop.
Mais bon, moi, restons optimistes. Les entreprises font du libre, bon, même si ça se déguise sous une forme d'open source. Et ça, c'est très bien. Ça permettra de faire évoluer en mieux. Parce qu'à un moment donné, pour que le plus de personnes s'y mettent, eh bien, il faut aussi pouvoir gagner de l'argent là-dessus. C'est pas très grave. Alors, la suite, demain, j'arrête. Article Le Journal du Net. La Chine cherche à s'affranchir de sa dépendance à Windows, de Dominic Philippon. Et donc là, le pays le plus peuplé du monde cherche à passer à autre chose.
Alors, bah, ils s'appuient sur des ressources internes. Ils ont deux structures, la National University of Defense Technology et le China Standard Software Company. Donc, ils sont deux structures. Hein. On a dans un cas une université, de l'autre côté une entreprise qui travaille pour mettre en place un OS, un système d'exploitation 100% chinois et qui soit capable de rivaliser avec Windows. Donc ces deux structures travaillent déjà et depuis un petit moment sur des éléments, notamment l'université de défense, enfin de technologie de défense, travaille sur un système qui s'appelle Kilin, basé sur FreeBSD. Et l'autre boîte également a travaillé sur des activités avec Sun pour faire un environnement de travail Java. Et donc là, ils travaillent sur tous les deux, donc ces deux structures, sur un projet qui s'appelle Neo Kilin, donc le nouveau Kilin, et qui serait basé sur Red Hat.
Bon, donc 100% chinois, en tout cas les évolutions, je suppose, mais c'est l'avantage du libre, hein, c'est qu'ils se basent sur des briques existantes et pérennes et qui ont fait leurs preuves, que ce soit du FreeBSD ou du Red Hat, c'est des bonnes solutions, c'est des bonnes briques de départ.
Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils le font, hein, parce qu'ils expliquent quand même pourquoi ils se lancent là-dedans. Alors c'est pas totalement par hasard. Donc déjà, c'est à destination de l'administration, mais aussi des entreprises et des particuliers. Et pourquoi faire ça ? Alors, donc, pour lutter contre le piratage, pour des raisons de sécurité, et également pour développer toutes les activités locales, donc faire du développement économique et avoir des entreprises qui travaillent.
Oui, on en parlait hier, un journaliste algérien, il me semble, qui faisait les mêmes références et qui se basait notamment sur la Chine pour dire, voilà, il faut que les pays se mettent à faire du libre parce que c'est un moyen de développer de la compétence, de développer de l'activité locale et de ne pas juste renvoyer de l'argent à ce qui généralement est des géants américains qui nous piquent l'argent, parfois en passant par l'Irlande et donc en payant encore moins de taxes, ce qui paierait autrement, et qui ne nous ramène pas forcément grand-chose derrière, parce qu'après tout, hein, une version d'un logiciel, c'est la même que la précédente. En soi, ce n'est pas un coût phénoménal une fois qu'on l'a, ce logiciel.
Point suivant, donc le petit Nicolas contre les pédonazis. Donc là, évidemment, on retombe sur des questions qu'on a déjà traitées la semaine dernière. Donc un article de Public Sénat, « Pédopornographie, le filtrage du net inquiète les acteurs du secteur » par François Vignal. Donc c'est un article pas mal foutu, je trouve, parce qu'il est assez synthétique, il montre bien les différents points de vue. Donc bah, on retrouve des gens qu'on connaît, donc une citation de Tanguy Morlier, notre cher président de l'April, et également de Jérémy Zimmermann pour la Quadrature du Net. Sur des sujets qu'on avait déjà évoqués l'année dernière, donc hein, pour mémoire, la loi LOPSI 2, indique qu'on peut maintenant monter des listes noires pour filtrer et faire filtrer Internet, soi-disant pour faire disparaître les sites pédopornographiques. On sait que c'est inefficace, qu'ils utilisent déjà les réseaux fermés, cryptés, etc. En revanche, on s'inquiète pas mal sur une notion de censure collatérale. Alors, deux exemples. En Australie, donc, où ce système a déjà été mis en place, il y a un jardinier dont le site a été dégagé, on ne sait pas trop pourquoi. Et en Finlande également, on s'est aperçu que dans la liste noire finlandaise, bah, y avait pas mal de sites qui étaient contre la censure. Donc au final, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la pédopornographie. Par contre, ça avait pas mal à voir avec le fait de faire taire les opposants.
Oui, moi je rappellerai d'un point de vue purement technique, qu'est-ce qu'ils font quand ils disent qu'ils filtrent un site? C'est pas compliqué, hein. Ils n'empêchent pas les gens d'accéder au filtre. C'est juste que les pages blanches entre le nom de domaine et l'adresse exacte de la machine sont bloquées. Et donc on n'arrive plus à y accéder en mettant une jolie URL, comme tout à l'heure on parlait des URL avec .42. Bah là on ne pourra plus y accéder en tapant mon joli site avec des enfants.com. Il faudra taper une URL avec une IP. Donc un petit truc un petit peu plus technique, mais vraiment très simple. Et surtout c'est que c'est crypté. Et les flics par exemple, eux ils disent bah non, il ne faut pas aller dans ce sens-là parce que vous allez encore plus encourager les fameux pédonazis à faire du cryptage, ce qui pour nous nous complique énormément le travail. Et ça n'enlève pas un site web d'internet, ça ne fait que légèrement bloquer les gens qui vont sur internet de manière casual. Les vrais pédonazis, eux, ils savent s'y retrouver sans aucun problème.
Alors, autre élément rigolo de cette affaire, donc Nicolas Sarkozy a reçu des blogueurs à l'Élysée et à cette occasion a déclaré qu'il n'était pas au courant de cette histoire de filtrage et que bon, s'il y avait besoin, on reviendrait en arrière et tout ça. Bon, on fait quand même remarquer dans l'article que donc, lors de son discours sur la culture du 7 janvier 2010, il avait dit en substance que bon, si Adopi ça marchait pas, on passerait au filtrage. Donc bon, on a quand même un peu de mal à croire qu'il n'était pas au courant.
Alors, l'Europe prône l'interopérabilité d'Opérette. Un petit peu difficile à dire. ITRManager.com, un avis de l'April. La Commission s'éloigne de l'interopérabilité pour les services publics européens, de la rédaction, qui parle d'une lettre ouverte qui a été transmise à la Commission européenne il y a peu, pardon, pour sauvegarder l'interopérabilité. Est-ce que ça te parle, Luc ?
Alors, en effet, c'est donc quelque chose qui a été rédigé. Il y a un document de référence qui est sorti le 16 décembre par la Commission européenne, qui s'appelle « Vers l'interopérabilité pour les services publics européens ». Alors, il existait des choses avant, et donc ce texte est un véritable recul sur le sujet. C'est-à-dire qu'on avait des notions pas tout à fait satisfaisantes, mais des notions de standards ouverts notamment, avec des définitions assez précises de ce que c'était, et ça a été remplacé par la notion de spécification ouverte, donc qui est extrêmement vague, beaucoup plus vague que ce qui existait avant, ne se réfère plus à des textes préexistants ou ce genre de choses, c'est bien plus flou, c'est une notion dans le vague, donc on ne peut rien opposer face à ça, donc ça va permettre de faire des fichiers fermés, enfin en tout cas aux administrations européennes d'utiliser des fichiers fermés, vaguement documentés, etc. En tout cas c'est le flou le plus complet.
Oui, à l'origine, moi, je veux rappeler, un standard ouvert, c'est quelque chose qui doit être géré par une organisation sans but lucratif. Et ça doit être un standard qui est publié et avec des documents de spécification disponibles, soit gratuitement, soit à un coût nominal. Les brevets éventuels sont irrévocablement et gratuitement mis à disposition. Et il n'y a pas de restriction à la réutilisation du standard. Donc des trucs assez simples, mais au moins qui sont posés et qui sont très compatibles avec le libre. Et donc là, il semblerait que ça va probablement sauter. En tout cas, il y a moyen plus facilement de contourner ces petits requis-là en passant sur les spécifications ouvertes qui ne veulent pas dire grand-chose.
Bah, dès lors que ce n'est pas indiqué dans le document, tout est permis. Donc il y a un beau cadeau au monopole qui existe.
Bon, tant pis, on verra comment ça continue. Peut-être que cette lettre ouverte va faire réagir.
Peut-être, effectivement. Merci à nos amis de l'April, Emmanuel Charpentier et Luc Fievier. On les retrouve tout de suite, juste après une petite pause musicale dans cette divergence numérique, votre émission sur les logiciels libres, le libre. Une émission que vous entendez sur Divergence FM 93.9 et puis sur Radio Escapade 103.3, 104.1. On va s'écouter de la musique libre en free musique publique licence, une licence particulière en fait qui dit vous pouvez faire ce que vous voulez. Des licences que l'on peut avoir en explication dans l'émission aussi que j'anime, Elle est libre. Ma musique, que l'on retrouve aussi sur les deux antennes, Divergence FM et Radio Escapade, Bande de Petits Vénards. Et puis, donc on va écouter de l'artiste Neu, le titre La Lune. C'est tout de suite sur Divergence Numérique. We'll be right back.
qu'à son aube je m'effondre. La lune était ronde.
La Lune par l'artiste Noy en free musique publique licence que vous retrouvez sur l'excellent portail de musique libre et légale, librement téléchargeable, encore actuellement non filtré, j'ai nommé dogmasic.net. Vous retrouvez aussi tous ces liens sur le site de l'émission divergence-fm.org, rubrique société divergence. Numérique, Divergence numérique, 93.9 Divergence FM. Et puis, pour ceux qui nous écoutent dans les montagnes, c'est le 104.1, 103.3 de Radio Escapade. On poursuit cette divergence numérique avec une nouvelle revue de presse de l'April, puisque c'est une spéciale nouvelle dans cette divergence. C'est donc la dernière semaine de l'année 2010, l'année 52, avec nos amis de l'April, april.org.
Revue de presse de l'April, semaine 52 de l'année 2010, la dernière de l'année, et bonne année tout le monde, bonne année à Divergence. Donc au programme aujourd'hui, donc terroristes nous voilà, l'OSI contre-attaque, le CCC au secours du net, la compile 2010, la révolution russe, et la réponse est point 42. Et pour commencer, on va parler d'un article, enfin tout plus plutôt de deux articles sur le même sujet. Ce sont des articles qui font une rétrospective de ce qui s'est passé du côté d'Oracle avec le rachat de Sun. Et donc on en a un qui est un article du mondeinformatique.fr, bilan Oracle Sun 2010, adoption et abandon, par Maryse Gros, qui refait tout l'historique. Donc la lecture est très utile. Second article, donc du Mag IT, État du monde IT, Oracle souffle un vent glacial sur l'open source. L'article de Cyril Chausson. Là par contre, le sujet est un petit peu plus large, mais en tout cas, ça donne, revient sur, essentiellement sur les questions d'Oracle. Donc, on en a parlé pendant les dernières revues de presse, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais allez lire tout ça si vous voulez faire le point et si vous avez raté les épisodes précédents. Alors, la réponse est point 42.
Donc, un article développé.com. Lancement du nom de domaine .42 par des militants de l'open source, un projet soutenu par Tristan Nito, mais critiqué par d'autres, la rédaction.
Alors, juste pour souvenir, on a parlé la semaine dernière, .42, c'est le nouveau nom de domaine qui vous permettra d'aller sur Internet, mais sur Internet, un Internet un petit peu à part. .42 à la place de .com, .fr, .info, truc un peu original, et des plus intéressants, on en a parlé, mais qui pose des questions pas toujours simples, et justement, il y a des réponses qui sont apportées sur cet article. Luc, qu'est-ce que tu en penses ?
Ah oui, donc cette extension, son nom de domaine, il faut savoir que tous les autres noms de domaine sont gérés par l'ICANN, qui est une boîte américaine, et que ça aussi, ça soulève des questions, et que donc ce qu'on appelle un TLD, en .42, qui ne dépend pas de l'ICANN, nécessite comme des bidouillages, c'est pas accessible à tout le monde comme ça, un peu de bidouille, et l'objectif c'était d'avoir derrière des projets libres, ou des projets tournés vers le partage de connaissances, et qui, dans la première mouture, en tout cas, semblait exclure les activités commerciales. Et donc une activité commerciale, c'est quand même très très flou. Ça soulevait pas mal de questions, c'est comme dans le bouquin. On a la réponse, mais on n'a pas le sens de la question initiale. Donc il y a eu beaucoup de débats, ils ont précisé plein de choses, fait évoluer la définition de leur sujet. Donc l'idée, c'est de faire la charte. L'objet, c'est de faire comme quelque chose d'assez geek, hein, qui est vraiment à destination des geeks, c'est pas accessible à tout le monde. Qui soit sur lequel il y a une charte, ils disent qu'ils ne vont pas faire de censure, c'est-à-dire que dès qu'on est dans la charte, on peut mettre n'importe quoi, il n'y aura pas de censure sur le contenu, on peut exprimer des opinions extrêmement diverses et tout à fait contradictoires. Et il y a eu aussi pas mal d'assouplissements sur tout ce qui était commercial, à savoir que si on a une entreprise qui vend du service, et notamment du service en logiciel libre par exemple, on est bienvenu, si on a des bannières de pub et qu'on propose du contenu qui rentre dans la charte, on est les bienvenus aussi. Par contre, voilà, si on est une entreprise qui fait du propriétaire qui va revendre entre 30 fois la même chose ou faire de la propriété intellectuelle, etc., ça passera moins bien. Donc forcément, il y a une part d'arbitraire. Hein. Mais bon, voilà, c'est un domaine. Et ils disent qu'il y a d'autres domaines comme le .fr où il faut être en France ou des choses comme ça. Et que bah, voilà, c'est leur choix. En tout cas, bah, une initiative assez intéressante. Et moi, que je trouve pas mal en soi, parce que bah, ça amène à sortir de l'ICANN, et ça c'est pas mal, c'est déjà un bon point de départ, et puis bon voilà, c'est pas plus mal, enfin c'est pas mal en soi, ça fait réfléchir, puis c'est pas mal en soi d'avoir des sortes de réserves de geeks où on puisse faire vivre l'utopie dans son coin, et ça n'interdit pas de partager après. Donc la révolution russe, c'est une vieille info ça, Manu.
Oui, 100 ans, presque. Dans l'article Numérama, la Russie veut rattraper son retard dans le logiciel libre de Julien L. Donc c'est des soubresauts de décisions qui avaient déjà été prises et qui sont reprises, mais de manière assez sérieuse cette fois-ci. Vladimir Poutine a annoncé, et donc ça a fait beaucoup de répercussions dans les médias et à l'international, que les institutions russes allaient toutes passer au logiciel libre. Donc il force un peu le ton, presque il tape sur la table. Mais d'ici 2015, il va falloir que tous les ministères et toutes les institutions qui utilisent d'habitude des logiciels propriétaires piratés passent à des logiciels libres et fassent développer ce dont ils ont besoin, fassent évoluer ce dont ils ont besoin, y compris en passant par un organe interne de formation et d'évolution sur lequel ils vont centraliser beaucoup de choses et faire évoluer beaucoup de choses. En tout cas, c'est une très bonne décision. Je ne sais pas si en France, on va faire évoluer dessus.
Ah, peut-être. Alors en Russie, on leur mettait pas mal la pression. Enfin, le logiciel propriétaire leur mettait beaucoup la pression sur toute une série de questions de contrefaçon. Ouais, sans doute avec l'espoir de gagner de l'argent. Bon, bah, ils ont réagi. Manifestement, ils réagissent en faisant le choix du libre. Tant mieux.
Alors Luc, compile 2010.
Alors, c'est non pas la compile de musique de danse de l'année 2010, mais un article d'Agora Vox, 2010, année de consolidation dans le secteur informatique, par Denis Salkowski, désolé pour lui, en tout cas pour la façon dont je prononce son nom. Donc moi, c'est un article très long qui est compile une rétrospective de l'année, donc il y a énormément de choses là-dedans, on peut difficilement le résumer, aller le lire, c'est intéressant pour voir, ça peut parler de pas mal de choses.
Oui, il y a de l'écologie, ils expliquent comment Yvelette Paccard arrive à alimenter en énergie avec des bouses de vache, des bêtises comme ça.
Ils n'ont pas l'air tout à fait convaincus par la méthode. Il y a des choses encourageantes, d'autres qui le sont moins, comme par exemple le fait que Linux en poste de travail, ça perce toujours pas. Voilà, et dans tout ça, il y a un truc qui nous a un petit peu interloqué. qui est la question de la masse salariale, en tout cas de tout ce qui est emploi en logiciel en Europe.
Oui, enfin, d'une manière générale, tout ce qui est les bilans, budget et l'argent. Et bon, moi, je vois que non, c'est très positif. La France est troisième en termes de dépenses et de salaires et d'emplois dans l'informatique.
Oui, alors enfin oui, sauf que quand on regarde le graphique et les chiffres, on voit qu'il y a presque 14 milliards en Allemagne, 6 milliards en Grande-Bretagne d'euros, hein, et 3 milliards en France, donc on passe quand même pas grand-chose.
Ouais, ça fait un peu mal au cœur, surtout que c'est l'article qui y fait référence. On est supposé être des bons élèves, hein, du point de vue des institutions pour le logiciel libre, mais par contre, les entreprises françaises pêchent énormément et elles continuent à faire beaucoup de propriétaires, ce qui explique peut-être en partie ce déficit et cette mauvaise balance.
On peut aussi faire du bénéfice et de l'activité avec du logiciel propriétaire. Enfin, voilà, ce que je retiens, moi, mais on sort du cadre habituel, mais c'est un truc qui me titille pas mal, c'est que les entreprises françaises ont réclamé à corps et à cri pendant des années une baisse du coût du travail en disant qu'il n'était pas compétitif. Aujourd'hui, le coût du travail en France coûte bien moins cher qu'en Allemagne. Et on voit, en tout cas dans le domaine de l'informatique, mais bon, c'est valable dans le reste aussi, qu'on est toujours à la ramasse. Donc il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, hein, nos entrepreneurs sont mauvais.
T'abuses. Bon, j'espère que ton patron t'écoutera pas trop et qu'on continuera à nous embaucher. On a besoin d'informaticiens en France.
Donc point suivant, le CCC au secours du net.
Article OVNI, Chaos Computer Club, revendication pour un net viable. Un article qui est une reprise du site Vasistas et qui parle du CCC, un groupe de gens des plus intéressants.
Oui, moi je pensais que c'était naïvement le comité contre les chats, mais non, c'est le Chaos Computer Club, qui est un groupe d'associations allemandes de hackers et d'informaticiens. Ça dépasse le cadre du logiciel libre, même s'il a une place prépondérante là-dedans. Et donc, dans cet article, plusieurs points, il présente donc un plaidoyer pour l'avenir du net et assurer son développement et sa survie.
Donc, on peut énumérer quelques-uns de ces principes, hein, ils sont des plus intéressants. Donc, du type, alors, l'accès à Internet est un droit fondamental et une condition pour la participation à la vie culturelle et politique. Point numéro 2, les bienfaits du net ne peuvent être accessibles que si la neutralité du net est garantie.
Point 3, les grands projets informatiques publics doivent être attribués selon des critères sensés.
Gérer les données publiques de manière transparente.
5, rejet des brevets logiciels. 6, moderniser la législation du droit d'auteur.
7, les fournisseurs d'accès ne sont pas responsables des données de leurs clients.
8, une meilleure protection des données à caractère privé.
9, établir le droit à l'anonymat.
10, empêcher le profilage des utilisateurs. Et 11,
améliorer la protection des lanceurs d'alerte, en l'occurrence les gens de Wikileaks par exemple.
Voilà, donc évidemment chacun de ces points est détaillé. On vous invite vraiment à aller lire tout ça, c'est très sensé et une bonne synthèse et assez complet.
Alors le site c'est OVNI, c'est O-W-N-I. Pour ceux qui cherchent un petit peu sur le net, ce sera plus facile de trouver.
En Allemagne toujours, l'OSI contre-attaque.
Le Magit, rachat de Novell, l'OSI demande aux autorités allemandes d'enquêter sur les intentions de CPTN, de Cyril Chausson. Beaucoup d'acronymes, c'est pas toujours simple. C'est quoi cette histoire de contre-attaque? Il y a un empire, il y a des sabres?
Alors déjà, je dis le Magit, hein, pas le Magit. Et le CPTN, donc c'est l'article qui est tiré de Chausson, et le CPTN, ça appartient à Microsoft. Donc on en avait parlé, c'était ce groupement d'entreprises, mystérieux groupement d'entreprises qui a racheté Novell et surtout tous les brevets qui vont avec.
Alors, et l'OSI, c'est ?
L'OSI, c'est l'Open Source Initiative.
Oui, hein, des gens qui sont très recommandables, même s'il y a toujours un petit peu d'étincelle avec les gens qui font du logiciel libre. L'open source, c'est une des autres façons de le percevoir. Pas toujours des... Bon, bref, c'est pas très grave, mais c'est important de savoir que c'est de l'open source. Et en Allemagne, ils sont en train de combattre à leur manière et d'aller taper à la porte sur les institutions judiciaires pour leur dire, regardez, il y a des gens, justement, c'est des gros gars là, qui sont installés, qui ont mangé une portion de Novell et qui veulent faire quelque chose avec leur brevet. On ne sait pas trop quoi, on voudrait s'assurer qu'ils ne vont pas trop faire de mal à tout le monde.
Oui, parce que derrière CPTN, donc c'est Microsoft, mais Microsoft pas tout seul, il y a Oracle, il y a Apple et EMC, donc des très grosses boîtes propriétaires, et qui, avec ces brevets, peuvent aller attaquer le logiciel libre et open source. puisque les licences libres les mettent à l'abri, il ne reste plus que les brevets pour aller leur casser les pattes.
Et donc là, l'OSI, ils essayent d'aller se défendre en disant, en demandant de vérifier qu'il n'y ait pas une atteinte à la concurrence, car là, ça ressemble de plus en plus furieusement à un cartel. Et un cartel, eh bien, c'est connu pour ne pas être forcément gentil avec les petits et pour casser les pattes aux nouveaux arrivants. Donc là, ils prennent un peu les devants et bravo, c'est une bonne idée.
Terroriste, nous voilà. Alors Manu, tu fais de la nostalgie ?
Eh oui, on retourne dans le passé, ça fait du bien. Eh bien là, c'est la nostalgie de l'année 2010 encore, mais sur un autre ton. Donc, Read, Write, Web, chronique de l'InfoWar 2010 de Adopi à Wikileaks, e-book, c'est de Fabrice Ebelpoint, et Pellboin. Donc un récapitulatif un de plus, mais là qui prend le ton de tout ce qui est légal, loi, et qui part de l'Adopi pour aller jusqu'à Wikileaks, hein, et qui en fait une sorte de bilan des plus pessimistes, mais tendant vers un optimisme intéressant, et un récapitulatif de tous les articles de Read, Write, Web, que je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment, ils ont beaucoup de bonnes choses, ils ont une très bonne plume, et tous ces articles reprennent... tous ces déboires de la LOPSI à la DOPI, et c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, il y a cette notion d'infowar qui est de dire que bon, jusqu'à maintenant, Internet c'était un terrain de jeu et c'était super et tout ça, et qu'on est rentré dans une guerre de l'information, l'infowar, et que depuis 2010, voilà, c'était le tournant, et que maintenant c'est fini de rigoler, qu'il y a des choses très sérieuses qui se passent. Ces dernières semaines avec Wikileaks, on a vu ce que ça donne. Quand même, eu des mouvements assez impressionnant, notamment des banques qui ont décidé comme ça unilatéralement que vous pourriez plus donner d'argent, des banques, des sociétés comme Visa et Mastercard, etc., qui a décidé que vous ne pourrez plus donner d'argent à Wikileaks parce que eux, ça les embête. Adopi, l'OPSI, donc des attaques sur les libertés, sur les principes du droit, enfin des choses vraiment très très lourdes. Et qu'en face de ça, il y a des résistances qui s'opposent. Et l'auteur dit notamment qu'en tapant là-dessus, Adopi provoque des réactions et met en place des opposants et des gens qui réfléchissent et qui savent se défendre.
Et c'est ça que j'adore moi personnellement dans cet article, c'est l'optimisme qui en ressort. Et oui, on a tapé sur les citoyens, on tape sur les gens qui utilisent le net. Et la réaction, c'est que ça forme ces gens-là à se défendre et à réagir. Et il se trouve, la France, on est un terrain où il y a eu beaucoup d'exploits en négatif. Et bien, ces exploits en négatif, toutes ces lois à l'emporte-pièce qui ont été mal faites, et bien, ça forme les citoyens à réagir et à mieux comprendre. Et les Français, on est très, très bien armés. Donc, très, très bien armés. Donc, c'est amusant. Et c'est un bon article à aller lire et à voir. C'est une bonne compile avec plein de bonnes informations.
Voilà, il y a un lien pour aller télécharger tous les articles qui ont été écrits dans l'année. Donc, il y a vraiment une masse de choses à lire. Et c'est un article de l'analyse, et ça c'est assez plaisant, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de relater des faits, il apporte vraiment une vision, une analyse et une compréhension qui est la sienne, et qui est tout à fait argumentée, et qui du coup était un vrai plaisir à lire.
Un vrai plaisir à lire sur april.org, puisque c'était la revue de presse de la semaine 52 de l'April, l'association de promotion pour le logiciel libre, que vous retrouvez donc sur leur site à april.org, comme je le disais. Les différents liens aussi sur notre émission de Divergence numérique, divergence-fm.org. Et puis, vous êtes toujours donc à l'écoute de Divergence numérique, vous l'aurez compris, l'émission sur les logiciels libres, sur le 93.9 de Divergence FM, sur le 104.1, 103.3 de Radio Escapade. On va faire une petite pause musicale dans cette Divergence numérique avec Studio Suono, I Need a Break. C'est de la musique libre en Creative Common by NCND 3.0. Certains puristes diront que ce n'est pas tout à fait libre puisqu'il y a une licence. Mais en tout cas, vous pouvez contacter les auteurs ou l'auteur pour en faire ce que vous voulez. En tout cas, c'est à télécharger librement. Ça, c'est sûr sur dogmazic.net et c'est tout de suite sur Divergence numérique. 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, go! And another reason I need a break, avec un petit jeu de mots, break, j'ai besoin d'un frein, j'ai besoin d'une pause dans ce monde qui va tellement si vite. On continue cette divergence numérique spéciale nouvelle avec la revue de presse de l'April, et oui, encore april.org, revue de presse de la semaine numéro 1.
Revue de presse de l'April, semaine 1 de l'année 2011. Bonjour Manu.
Salut Luc.
Alors, aujourd'hui au sommaire, le 13 a une fuite. Les gendarmes sont open. Les éditeurs qui plantaient l'homme, qui plantaient des arbres. Qui garde les gardiens? Chrome met le feu au renard. Vous êtes libre de nous faire confiance. Et le supplice Drupal. Donc le supplice Drupal, c'est le supplice qui commence bien et qui finira pas mal. Un article donc de IT Expresso. Donc une interview de Pierre Matuchet de voyagesncf.com. 255 millions de billets vendus depuis la création du site. Donc interview menée par Philippe Guerrier.
Donc et qui parle du site de la SNCF, un vieux site qui fonctionne depuis pas mal de temps, qui utilisait beaucoup de technologies propriétaires. Et bon, c'est le site le plus gros qui fait la plus grande quantité de e-commerce en France. Plein de fric. Et ils ont le bonheur de passer en logiciel libre à peu près toute leur infrastructure, de plus en plus, que ce soit les bases de données qui vont évoluer, mais surtout les serveurs applicatifs. Alors, c'est un serveur qui s'appelle Tomcat, pour remplacer, et ça je sais, j'ai des amis qui souffraient à cause de ça, un gros bidule qui s'appelle WebSphere, une horreur qui en plus a le bonheur de coûter une fortune. Et donc là, effectivement, ils font un petit transfert pour le meilleur. Et l'autre transfert qui est repris sur Le Monde, c'est le site internet de la SNCF passe à la plateforme libre Drupal. Donc Drupal, c'est un gestionnaire de contenu. Et il se trouve que grâce à ça, ils vont pouvoir mettre en place tout un portail de présentation d'articles, de données, d'informations. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Tu te rappelles, Luc ?
Non, mais enfin, de quoi acheter des billets. Bon, alors, c'est intéressant parce que ce site de la SNCF a été réputé pour être très moche et détesté par ses utilisateurs. Il y a eu des études qui avaient été menées là-dessus. Il y a eu la mouture actuelle qui était quand même une amélioration, mais avec encore pas mal d'éléments. Donc, on espère que la SNCF ira vers un mieux.
Alors, Chrome met le feu au renard.
Donc, un article du Mag IT, donc Firefox devant IE en Europe. Firefox dit merci à Chrome, par Cyril Chausson. Donc, ça fait un petit moment qu'on sait que Firefox monte et que Internet Explorer perd des parts de marché. Et ça y est, ils sont passés devant. Donc, quand on voit les graphiques, on se rend compte que c'est pas que Firefox a une fulgurante montée, mais c'est Chrome qui grimpe et qui bouffe des parts de marché à Internet Explorer.
Et moi, je dis, c'est la fête. Ça fait super plaisir. J'ai quasiment sorti de champagne quand c'est arrivé. Mais je peux vous dire, ça fait des années que j'attends que ça. Enfin, je vais pouvoir dire rétrospectivement à tous mes chefs qui m'ont imposé de faire du IE7 et des merdes innommables pour supporter un navigateur insupportable. Et là, enfin, on va pouvoir dire, regardez, Firefox est plus important. À la limite, si vous voulez vous spécialiser sur un navigateur, spécialisez-vous sur ce navigateur-là. Il est ouvert, il est pérenne, il est joli, il a plein de greffons, c'est un bonheur. Bon, merci à Chrome, c'est grâce à lui que ça arrive, mais ça n'empêche, Firefox, c'est déjà une quarantaine de pourcents de parts de marché en Europe, c'est déjà considérable, on n'a pas à se plaindre.
Alors, Chrome, c'est Google. Google donne de l'argent à Mozilla pour faire Firefox, donc si Chrome continue à monter, je pense que ça va faire des étincelles.
Ouais, non, là, t'es négatif. Je suis sûr qu'ils font ça par gentillesse et parce qu'ils savent que ça casse les pieds à Microsoft. Donc, il n'y a rien de tel que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ça peut peut-être encore fonctionner quelque temps.
Donc, qui garde les gardiens? C'est une référence au Watchmen, qui est une référence à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, en fait, c'est un article de Numérama, un premier outil libre et open source pour Adopi Data, par Guillaume Champeau.
Donc, un article qui présente assez rapidement un outil pour suivre et pour surveiller ce qui se passe avec Adopi. Alors, on envoie soi-disant plein de mails d'avertissement aux citoyens.
On, c'est Adopi.
C'est Adopi, c'est les institutions, c'est un club de têtes pensantes, de jolies têtes pensantes. Et ces mails-là, on n'en a pas vu passer finalement beaucoup. Je ne sais pas pour vous, est-ce que vous-même avez été touché, vous connaissez quelqu'un qui a été touché ou autre. Mais en tout cas, si c'est le cas, on vous recommande d'aller voir sur le net. Vous allez vous promener sur adopidata.fr et ils veulent vos témoignages, ils veulent savoir un petit peu ce qui se passe. Et en plus, les données qui sont recueillies sont réutilisables. Il y a un petit outil, un petit logiciel qui est derrière et qui permet de, de savoir ce qui se passe exactement. Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres informations. Ils étaient supposés envoyer des centaines de milliers de courriers d'investissement par jour. Et pour le coup, ouais, il doit y en avoir eu quelques centaines qui sont passés, quoi, au moins.
Bah, on n'en sait rien. Donc, c'est une sorte de recensement, mais qui ne repose que sur la volonté des personnes à se dénoncer après avoir été flashées potentiellement en train de télécharger sur Internet. Enfin bon, bref, ça le mérite d'exister.
Alors, article de OVNI, O-W-N-I. Si Jean Giono avait connu les licences libres de Calimac, un article sur une œuvre magnifique, de plus intéressante. Luc ?
Alors, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est L'homme qui plantait des arbres, donc un texte de Jean Giono qui date des années 50, qu'il avait écrit pour un concours et où il raconte l'histoire d'un homme qui plante des arbres un peu partout, et sur des terres notamment, qui peut-être appartiennent à des gens, mais il n'en sait rien, et fondamentalement, ça n'intéresse pas plus que ça. Donc une œuvre dont l'histoire est assez intéressante, puisque Jean Giono donc, l'avait publiée, et n'a jamais fait valoir ses droits là-dessus. Elle a été publiée, traduite dans des tas de langues, publiée par des éditeurs qui ont vendu les exemplaires, et Jean Giono n'a jamais demandé un centime là-dessus, et a laissé son œuvre partir, et considérant que c'était finalement une très bonne chose, parce qu'il avait un message à faire passer, et que la motivation commerciale est finalement un outil très puissant pour faire passer ce truc-là. Et il a cette citation qui dit « C'est un des textes dont je suis le plus fier. Il ne me rapporte pas un centime, et c'est pourquoi il a accompli ce pourquoi il a été écrit. » Donc ce texte a vécu bien après lui. Il a notamment fait l'objet d'une adaptation sur un film d'animation absolument magnifique, assez particulière, donc en 1987, par l'illustrateur Frédéric Black, en narrateur Philippe Noiret. Donc il a obtenu 40 prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation. Pas quelle année, mais en tout cas, quelque chose d'assez important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les éditeurs qui, je suppose, éditaient Jean Giono, etc., ont commencé à réagir et à dire qu'ils avaient des droits sur le texte et à le bloquer et à essayer de coincer les choses. Il se passait aussi des choses au Canada, là où il y a une université qui avait monté une sorte de bibliothèque de textes dans le domaine public. Et le droit français et canadien n'étant pas exactement le même, certains textes sont au Canada dans le domaine public, mais pas en France. Et donc voilà, il y a eu des guerres là-dessus. Et l'auteur de cet article remarque que si Jean Giono avait eu des licences libres, ça tombait pile dans ce qu'il voulait faire. Et qu'aujourd'hui, son texte serait protégé et qu'on n'aurait pas ce genre de dérive.
Et donc, vive la diffusion des savoirs. Si vous ne connaissez pas encore les licences libres, il y en a beaucoup, ça fleurit sur Internet, et il faut être capable de les transmettre et de les faire fructifier. Donc, l'homme qui plantait des arbres, c'est un bon exemple, il faut le reprendre, chacun à son compte.
Les gendarmes sont open. Alors, c'est quoi ? C'est une bande de beatniks, c'est ça ?
Oui, avec des képis, par contre. Donc, article silicone.fr, les experts de la gendarmerie nationale adoptent application web et open source, de David Feuget. Et donc c'est dans la droite ligne de ce dont on parlait déjà dans le passé, c'est-à-dire ils se sont adaptés, ils ont adapté Ubuntu pour l'utiliser sur tous leurs postes, hein, tous les serveurs, donc ce qui leur fait faire des économies assez considérables. En plus, c'est du bon logiciel qui leur plaît beaucoup, il semblerait, les gendarmes concernés en disent que du bien. Et bien là, ils continuent et ils vont beaucoup bouger et faire évoluer des applications web. Alors je peux supposer que ça va être des applications liées à leur métier, hein, donc il n'y a pas de choses si bizarres que ça là-dessus. Et ces applications, ils vont les faire en open source, en logiciel libre. Et ils acquièrent eux-mêmes et ils prennent de plein pied toute l'ampleur du logiciel libre. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'optique de reverser ce qu'ils font. Et ils s'attendent et ils espèrent que d'autres le réutilisent et éventuellement contribuent à l'améliorer. Donc c'est génial. Les gendarmeries du monde entier vont s'unir et vont se libérer.
Voilà, donc l'article est une interview en fait, hein, donc de Marc Hugon, qui est patron de Sensio Labs, et de Guillaume Dupré, qui est chef d'escadron, responsable informatique à IRCGN. On vous laisse deviner ce que ça veut dire.
Alors, le 13 a une fuite, hein, Luc.
Alors, une histoire, sombre histoire, pas très amusante. Donc, on avait parlé de la mairie de Marseille, donc, qui devait passer au logiciel libre, et qui, suite à un changement de directeur informatique, a fait volte-face. À la suite de ça, donc, il y a quelqu'un qui est membre de l'April, un membre de l'April qui a monté un site qui s'appelle Wikileaks 13. Cette personne est également fonctionnaire au Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Et donc il a monté ce site et publié un certain nombre de lettres relatives à ce revirement, en impliquant qu'il y avait un certain nombre de magouilles et de trucs louches derrière. Alors évidemment, il a été suspendu, ça s'est pas bien passé. Derrière, il y a eu, bah, il appelait tous les gens des Bouches-du-Rhône à venir publier sur son site des documents de ce type-là et pour faire sortir les arrangements et les choses louches. Voilà, donc en face, le conseil général a dit que, sorti un mail en disant que cette personne leur avait fait du chantage pour obtenir un poste et des choses comme ça. De l'autre côté, bah, il y a d'autres personnes qui prennent parti pour lui. En indiquant que y a de la corruption, ce genre de choses. Donc pour l'heure, on n'a pas vu de preuves vraiment formelles. Une très forte couverture médiatique quand même, hein, se passait sur l'FP, Reuters, sur Le Point, rue 89, 20 minutes, Le Parisien également, et Numérama. Mediapart. Voilà, Mediapart. Donc une affaire qui fait beaucoup de bruit. Alors évidemment, tout ce Wikileaks, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, donc cet écho fait qu'on parle beaucoup de cette affaire. Donc malheureusement, la personne qui a lancé ça a craqué sous la pression, est hospitalisée actuellement, et a quand même fait passer un message en invitant les gens à faire comme lui, c'est-à-dire que lui dit qu'il a fait cette démarche pour le bien commun, pour que le monde tourne mieux, et il appelle tout le monde à œuvrer également pour que le monde tourne mieux. Donc on espère, indépendamment de toutes ces histoires, qu'il se remettra très bientôt. Donc toujours dans la région Rhône-Alpes, un article de lyoncommunique.com, lancement du pôle d'innovation en logiciel libre, une synergie entre PLOS Rhône-Alpes et la mairie de Tarare.
Donc c'est le lancement de tout un mécanisme entre administration, entreprise et centre de recherche. Donc des bonnes choses où justement ils veulent mettre en place quelque chose d'un peu innovant, d'un peu formateur, pour que les administrations s'accaparent les logiciels libres, les mettent en place, les fassent évoluer. Donc c'est du tout bon, c'est du très très bon, et donc ça montre que bien tout le monde peut s'approprier les bonnes idées et les mettre en place à un moment donné avec justement des interactions. Donc on espère que ça va continuer, on en entend parler régulièrement, il y a des pôles comme ça de compétitivité ou d'innovation qui se mettent en place, donc en voilà un de plus, c'est très bien.
Voilà, et donc un des objectifs, c'est aussi évidemment de dynamiser la région autour de Tarare, espérons que ça porte ses fruits. Article de Mediapart, la philosophie libre inapplicable dans l'enseignement, donc c'est un pseudo qui s'appelle Mon Pingouin, donc c'est un article de blog en quelque sorte qui a été repris sur Mediapart.
Et donc encore une fois un fonctionnaire, hein, d'ailleurs c'est à ce titre-là que je l'ai repris dans la revue de presse, et donc qui reprend, qui réexplique un petit peu les fondements de la philosophie du logiciel libre, les quatre libertés. Exécuter le code, étudier le code, étudier le fonctionnement d'un logiciel, redistribuer des copies, les modifier, mais qui fait preuve d'un certain pessimisme en expliquant que bien malheureusement dans l'éducation nationale ça se passe assez mal.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui manifestement vient d'y rentrer et qui, on le suppose, était informaticien par le passé, qui a l'habitude de travailler dans le libre, qui est un vrai libriste et a l'habitude de partager, et il constate que dans l'éducation manifestement ça pas mal le monde, ça prend très difficilement. Et là, autant on a quatre libertés, là il cite quatre freins à l'application des principes du libre dans l'éducation nationale. Donc un, la peur d'être jugé, parce que quand on donne ce qu'on a fait, on se met un petit peu à poil. Deux, le sentiment d'avoir travaillé dur pour l'élaboration d'un cours et de mâcher le travail du collègue. Donc là, c'est on veut pas que le voisin copie. Hein. Si on s'est donné du mal, c'est pas pour que ce soit facile pour les autres. Trois, la peur de perdre la paternité de son travail. Donc là, du coup, il y a vraiment de la méconnaissance sur le principe des licences libres. Et quatre, une méconnaissance des outils garantissant des droits aux créations libres, licences GPL, Creative Commons, etc. etc.
Donc ça part plus ou moins négativement, mais heureusement, il présente justement le fait qu'il y a des outils, EOL, Prometheus, Moodle, hein, qui sont des outils assez bons. Et nous, par ailleurs, on est en interaction avec des gens de ce milieu-là, donc on sait qu'il y a beaucoup de libristes dans l'éducation nationale. On aurait tendance à quand même être pas si pessimiste, mais après il faut voir de quoi il vient exactement. Et puis de toute façon, dans tous les milieux, c'est pas toujours facile de rencontrer de toutes les attentes et de voir les gens répondre au meilleur de ce monde, notamment le fait de partager des choses. Mais malheureusement, tout le monde n'y est pas prêt.
Alors il oublie quand même ce qui se fait dans les mathématiques avec ces AMAT. Ils ont une collection de bouquins, notamment d'exercices, de vacances et d'autres types de livres. Donc fait selon les principes du libre, de partage, etc., par toute une série de professeurs. Donc il se passe des choses dans l'éducation, mais manifestement, toujours des résistances, mais il y en a partout.
Bon, Luc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Divergence FM.
Oui, à la semaine prochaine.
Et oui, la semaine prochaine, merci Luc Fiedier et Emmanuel Charpentier de l'April pour cette revue de presse que vous retrouvez sur leur site april.org. Org, toujours sur Divergence Numérique, 93.9 Divergence FM, et puis Radio Escapade 104.1, 103.3. Voilà, on termine cette divergence numérique par évidemment le traditionnel agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, on peut noter que le 14 janvier à Téhéran, plus exactement à la médiathèque de Téhéran, en place du Ballon. Donc tous les vendredis, des ateliers d'initiation et de perfectionnement aux logiciels libres et systèmes d'exploitation libres, GNU, Linux, PAO, MAO, bureautique, traitement d'images, vidéo et montage son. Donc proposé de 16h à 17h, un atelier OpenShot Vidéo Editor, très très bon éditeur de vidéo. Et puis de 17h à 18h, l'atelier Audacity, également à Téhéran le 18 janvier 2011, de 14h à 16h. Toujours Montpellier Libre et ses partenaires qui organisent donc un atel libre. Ce sera de 14h à 16h, l'atelier Open Office, ou plus exactement Libre Office, comme vous avez suivi, le nom a changé. Et puis on poursuit également à Castelnau-le-Lez le mardi 18 janvier de 9h à 10h. Toujours des ateliers libres à la MJC du centre André Malraux, 10 avenue de la Moutte, donc à Castelnau-le-Lez. Et là, donc, c'est une découverte, installer GNU Linux, utilisation journalière, administration du système. Le contenu de l'atelier s'adapte aux problèmes des personnes présentes, possibilité de présentation d'un logiciel libre ou bien encore programmation en LaTeX. Et puis le vendredi 21 janvier de 14h à 18h30, là c'est à la Maison pour tous, Mélina Mercouri à Montpellier, rue de la Vieille Poste, à Montpellier, en face d'IBM, des ateliers toujours pratiques sur le thème des logiciels libres. Et là, plus exactement, ce sera GIMP, un logiciel libre gratuit de traitement d'images bitmap, donc dessin, retouche, animation. Voilà pour l'agenda du libre, agendadulibre.org. Je remercie El Ninja à la technique pour cette divergence numérique. Vous qui nous écoutez sur les différentes fréquences de vos radios libres, et puis ceux qui nous écoutent aussi sur les différents sites internet de vos radios respectives. Voilà, la semaine prochaine, nous aurons le grand retour du grand Gilles Gouget dans cette divergence numérique. Et puis aussi, nous aurons des protagonistes du libre de Montpellier, Montpellier Libre, la Frule, Montpellier Wireless, qui, avec des représentants de la FUL, l'association francophone des utilisateurs du libre, nous parlerons de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra donc fin janvier à Montpellier. En tout cas, merci de votre fidélité. Pardon. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous libre.